rencontre avec nos évêques. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Thibaut Dautuil au micro de Radio Présence pour notre émission hebdomadaire de rencontre avec l'un des évêques de l'ancienne région Midi-Pyrénées. Bonjour Monseigneur Echène.
Bonjour.
Vous êtes évêque de Pamiers, Couzon et Mirepoix en Ariège, et avec vous pendant ce mois de février, nous parlons de vos nouvelles orientations diocésaines rassemblées dans un livret que je recommande à tous nos auditeurs, Écosystème pour vivre en chrétien en Ariège. Dans la quatrième orientation, vous évoquez l'Église en sortie, l'envoi en mission qui suit l'Eucharistie, une mission qui n'est pas prosélyte. Vous dites en effet, notre mission, c'est de les aimer comme Dieu. Et concrètement alors?
C'est vrai que c'est un vrai défi aujourd'hui. Parfois, certains d'entre nous, et je ne critique pas du tout parce que c'est tout à fait légitime, prennent la mesure du fait que l'Église, au moins les assemblées chrétiennes, l'Église sainte, elle, en quelque sorte, est intangible, mais nous voyons bien que sociologiquement, nos églises se remplissent moins, les enfants inscrits au catéchisme sont souvent moins nombreux. Donc on pourrait se dire, il faut absolument qu'on se remue pour gagner de nouveaux militants, en quelque sorte, comme un parti qui verrait ses adhésions diminuer. Et je pense que si on raisonnait comme cela, peut-être de manière trop humaine, et on risquerait d'être un peu à côté de l'Évangile dans une démarche de prosélytisme qui est souvent pointée du doigt par le pape François, qui nous appelle à être une église en état de sortie, une oui. église missionnaire, mais qui nous dit souvent ne confondons pas cela avec le prosélytisme. Le prosélytisme, si on veut le dessiner à grands traits, ce serait une manière d'aller vers l'autre, non pas en nous ancrant dans un véritable amour et intérêt pour lui, mais en étant préoccupés de faire gonfler le nombre de nos adhérents. Ce qui est tout à fait autre chose, parce que là, ça veut dire que ce qui nous intéresse, ce n'est pas lui, c'est nous. Donc, une église en état de sortie, et c'est un peu ce qu'on essaie de dessiner dans cette orientation, est ancrée sur cet amour de Dieu qui nous habite, et cet amour de Dieu est un amour pour tout homme, quel qu'il soit, et cet amour nous pousse vers les autres, nous aide à sortir de nous-mêmes. Quand on dit en état de sortie, on pense à sortir par la porte de l'Église, mais c'est déjà sortir de notre quant à soi, de notre égoïsme, pour nous centrer sur l'autre. Et l'autre, si on l'aime d'un amour gratuit, d'un amour total, d'un amour d'offrande, au point parfois de donner sa vie comme le Christ, nécessairement va s'interroger en se disant « Mais pourquoi ?» dans un monde tellement marqué par un individualisme, la recherche de ses propres intérêts, est-ce que je rencontre des hommes et des femmes qui ne sont pas habités par cette intention-là de se servir des autres, mais qui aiment? Et à ce moment-là, une annonce devient possible, mais sur la base de l'amour et d'un amour manifesté.
Mais si vous nous y poussez ainsi, est-ce que vous considérez aujourd'hui que les catholiques d'Ariège manquent de courage pour sortir? Il y a quelque chose qui ne se fait pas assez?
Alors oui, pour une part, manque de courage, je ne dirais pas cela parce que ce serait une manière de juger, mais peut-être qu'on est habité un peu de peur, la peur de l'autre, la peur de celui qui ne pense pas comme nous. Donc on risque de s'enfermer dans nos petits cercles, dans le cercle de notre communauté, de notre réseau habituel, d'amis, de chrétiens pratiquants, notre groupe biblique ou notre équipe du rosaire. Mais dans toute équipe ou dans tout petit groupe, à un certain moment, on devrait se demander, comme dans une cellule d'évangélisation, mais est-ce que cette semaine, j'ai invité quelqu'un à nous rejoindre? Non pas pour se satisfaire d'être plus nombreux, mais parce qu'on considère que le Christ et l'Évangile sont attendus. Alors pourquoi sommes-nous si timides pour le proposer d'une manière ou d'une autre?
La question est lancée. Merci Monseigneur Echène. La cinquième orientation, vous l'avez appelée « joyeuse sobriété » comme un style de vie, et vous écrivez plus loin « la sobriété comme source de joie ». Quelle est donc votre définition de la sobriété et en quoi est-elle chrétienne?
Alors, une définition C'est difficile d'en donner une. Alors évidemment, quand on parle de sobriété sur nos territoires et sur d'autres aussi, on pense immédiatement à la figure de Pierre Rabhi,
Oui, bien sûr.
son concept de sobriété heureuse.
Oui.
Mais nous maintenant, et d'ailleurs beaucoup de nos contemporains aussi, ont en tête, en abordant ce concept-là, l'encyclique que nous a adressée le pape, Laudato si, sur cette invitation à prêter attention à la planète dans son ensemble, à tous les équilibres qui au final touchent aussi la justice qui existe et l'équité entre les hommes. Donc il y a vraiment cette idée que nous avons besoin de bien pour vivre, pour rester vivant, j'ai besoin de me nourrir par exemple. Mais on sait aussi que un bon nombre de nos contemporains sont en surpoids. Donc j'ai besoin de me nourrir, mais pas trop. Donc la sobriété, c'est ancré aussi dans la vertu de prudence, dans la vertu d'équilibre. C'est de dire, il faut que j'utilise ce dont j'ai besoin avec modération pour ne pas non plus faire que cette planète soit complètement détruite parce que je consomme trop de viande, par exemple, ou de carburant, ou d'énergie fossile. Je peux aussi, l'autre jour on était en réunion avec des évêques à Toulouse, et à un certain moment il y avait du soleil à l'extérieur et les néons étaient allumés dans la salle. Donc je me suis levé, je suis allé éteindre les néons, me disant, ben voilà, je contribue pour ma part, modestement,
Très concrètement.
à travers un signe, là, à dire, il faut quand même que je fasse attention. Je pense à un frère prêtre de chez nous qui est originaire du Burundi et qui a gardé des habitudes liées à son pays. Et un pays dans lequel, comme dans bien des pays en voie de développement, ou des pays qui ne sont pas les pays les plus riches, l'eau est une denrée rare. Et bien lui, dans sa cuisine, il a toujours une bassine sous le robinet. Parce que cette eau qui coule, il va s'en servir ensuite pour arroser ses plantes, surtout que cet été, c'était très sec en Ariège. Donc il y a une manière d'être attentif à ne pas gâcher des biens qui sont des biens qui appartiennent à tous, à ne pas consommer de manière exagérée. Donc cette sobriété, on va en parler pendant le carême à propos du jeûne. Et puis la sobriété est orientée sur le partage, dans la mesure où je consomme moins, ça me rend plus attentif aussi à ceux qui sont pas en
N'ont
surpoids, mais
pas
sont
le
en
choix.
surpoids. Oui.
Alors, ceci pour la sobriété et le caractère joyeux, vous appelez à davantage d'humour, voire de rire dans nos rencontres. Vous trouvez que notre Église est un peu triste ou vous aimeriez qu'elle le soit moins, en tout cas?
Alors parfois un peu d'humour, j'aime bien la définition d'humour qui sépare ce mot en deux autres qui parlent d'humilité et d'amour. Parfois un peu d'humour face à des questions complexes comme celles qu'on aborde aussi dans nos différentes rencontres. Ça fait retomber un peu la pression et puis ça nous remet finalement au travail, mais peut-être avec plus de sérénité intérieure. Il y avait un très bon petit livre de Didier Decoin qui s'intitulait Le Dieu qui riait. Et il prenait acte du fait que dans l'Évangile, quand on le lit, on ne met pas en scène le Christ souriant ou éclatant de rire. Mais il se dit, mais je suis à peu près certain que le Christ, quand il a fêté à Cana, quand il partageait avec des hommes et des femmes, était aussi dans le sourire et dans le rire. C'est une dimension importante de la vie. En tout cas, ça aide à vivre. La vie est déjà assez complexe comme ça, donc si en plus on n'a pas un peu de sourire, un peu d'humour, elle devient encore plus difficile.
Très bien. Alors après plusieurs incitations à ces pratiques, la sixième orientation nous tire vers le beau. La nécessité de proposer non seulement dans nos liturgies, mais aussi dans nos lieux d'accueil, du beau. Proposer un regard beau. Pourquoi cette insistance?
Peut-être parce qu'on découvre que pour bien de nos contemporains, on s'aperçoit qu'on peine à regrouper des gens dans des églises pour une liturgie. Et parfois, l'après-midi du même jour, il y a dans cette église un magnifique concert avec des musiciens de qualité et qui attirent du monde. Parce que les gens ont besoin de cette beauté qui dit quelque chose de Dieu. La beauté, c'est un des transcendantaux. Et c'est une voie, c'est un chemin pour accéder à Dieu. C'est un chemin d'initiation, en quelque sorte. Donc il y a vraiment cette idée que dans nos liturgies, si nous voulons parler de Dieu, il faut que nous appuyions sur la beauté de l'Évangile, sur un texte bien proclamé, sur, mais aussi sur la qualité de la prédication, donc sur la vérité, et la vérité qui est contenue aussi dans la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait dans nos assemblées chrétiennes de la convivialité, donc de la bonté, donc de l'harmonie, de la bienveillance, et il faut aussi qu'il y ait de la beauté. Donc parfois, il m'arrive dans des églises d'entendre une personne qui prend comme un impératif cette idée qu'il faut chanter le psaume. Ce n'est pas du tout un impératif. Si on veut chanter le psaume, il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui soit en capacité de le chanter à peu près harmonieusement. Mmh, mmh. Et si on ne trouve pas cette personne-là, il vaut mieux en faire une belle lecture plutôt que d'en faire un chant qui risque de heurter un peu nos oreilles.
Donc ce n'est pas le beau à tout prix, c'est le beau qui a du sens et qui... Voilà.
Donc trouver cet équilibre, alors c'est bien sûr, on est dans un territoire dans lequel les paysages sont magnifiques, mais l'urbanisme n'a pas toujours été de bon aloi. Donc parfois on se dit, pour des gens qui sont en difficulté sociale, si en plus on leur demande de loger dans un immeuble sordide, dans un environnement qui n'est pas porteur de beau, comment cela pourrait-il les aider à sortir de ce qui les abat?
Lever la tête.
On a vraiment besoin de beauté, oui, et de culture d'une manière générale pour grandir dans notre humanité ensemble.
Merci Monseigneur Echen de nous avoir accompagnés encore aujourd'hui, et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour évoquer des dernières orientations.
Rencontre avec nos évêques.